Vous écoutez RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h46, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargée du numérique.
Et merci beaucoup d'être dans ce studio, Mounir Majoubi. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous dites à ceux qui présentent Emmanuel Macron comme le président de ceux qui réussissent, qui est plus à l'aise avec les start-upers, le CAC 40, qu'avec ceux qui rament pour s'en sortir?
Je vais vous répondre avec ce qu'on fait au quotidien et comment, chaque jour, ce qui est essentiel pour nous, c'est d'assurer cet équilibre. Une France qui est performante, une France qui va loin, des entreprises qui réussissent, mais surtout personne qui est laissé sur le côté. Et donc dans la politique numérique qu'on mène par exemple, on a deux volets. Un numérique performant d'un côté et un numérique d'inclusion de l'autre.
On va y venir. Mais quand il évoque ceux qui foutent le bordel, il désigne entre guillemets, il désigne des salariés. On ne l'a jamais entendu vituperer de cette manière, par exemple, contre le MEDEF. Ces coups de gueule publics, ils semblent toujours être orientés sur les mêmes cibles.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Au quotidien, ce qui compose nos discussions au Conseil des ministres, ce qui compose nos discussions entre ministres, c'est toujours de se poser la question, comment nos politiques publiques, comment ce qu'on fait au quotidien, eh bien, ça apporte et ça amène avec nous tous les Français. Les ordonnances travail, l'objet, c'était comment on fait pour que les PME, elles recrutent
donc
plus.
Donc c'est l'actualité qui est un miroir déformant. C'est ces phrases-là qu'on a entendues et qui ont saturé l'espace public depuis plusieurs semaines, c'est pas Emmanuel Macron.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a une tension aujourd'hui, que les Français les plus faibles, ils se posent des questions, et que c'est pour eux qu'on doit être capable aujourd'hui de se mobiliser, et que c'est pour eux aujourd'hui qu'on travaille. Écoutez, tout ce qu'annoncera Madame Buzyn aujourd'hui, notamment sur les territoires où on n'a plus accès aux soins, eh bien, ces Français-là, quand on n'a pas Internet, quand on n'a pas le médecin, et quand on n'a pas l'école, eh bien, évidemment qu'on se sent un peu à part. Et toute la politique de notre gouvernement, c'est d'aller dans ces territoires, dans les quartiers populaires, et de dire, on est là.
Et là, on est dans vos sujets, justement, puisque vous y faites allusion. Aujourd'hui, Agnès Buzyn, elle va annoncer un plan de lutte contre les déserts médicaux. La solution de la télémédecine, par exemple, ça ne peut pas être la solution miracle, parce que les déserts médicaux sont souvent des déserts numériques. Et là, on est dans vos sujets.
Complètement. Et là, vous avez raison de le rappeler. Un des piliers, ce sera la télémédecine. Mais ça ne peut pas être le seul. C'est pour ça que le plan qui sera annoncé, il a plusieurs pieds. Il y a un pied sur comment on a plus de médecins qui s'installent sur place, comment on a plus de personnel médical qui s'installe sur place et comment on accède facilement à des lieux où on a un peu de télémédecine, où on a un peu de services paramédicaux, où on a des services médicaux. Et ce qui est essentiel, c'est qu'on ait ces lieux partout sur le territoire. Et vous parlez de la fracture numérique. Bah oui, c'est les mêmes territoires qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas les médecins, qui n'ont pas les écoles.
Je disais, ça c'est vos sujets. Par parenthèse, vous êtes un peu essoufflé parce que je dois dire aux auditeurs, vous avez monté l'escalier 4 à 4 et que c'est difficile de le récupérer.
Je suis passionné.
Voilà, exactement. La télémédecine et surtout les déserts numériques, on va en parler. D'abord, où est-ce qu'on en est? Par exemple, le téléphone portable, on le capte sur quelle proportion du territoire?
Aujourd'hui, vous savez, le plus grand problème, c'est le thermomètre. Si je vous donne un chiffre, tout le monde le contestera et ils auront bien raison. C'est la première fois aujourd'hui qu'on a une carte qui a été faite par l'ARCEP, c'est l'autorité de contrôle, où on voit
c'est
les
C'est le gendarme des télécoms, on
c'est
va dire.
Le gendarme des télécoms, le régulateur des télécoms. Il a publié une carte qui était une carte avec à la fois des simulations et des déclarations des opérateurs. À peine ai-je publié sur mon compte Twitter que derrière, des gens me disaient « Ah bah non !» Genre, très exactement cette zone-là, moi je vous envoie ce que moi je capte, il n'y a pas de barre.
Et donc, mais quand on dit que à peine 60%, c'est le chiffre de la CEP globalement, du territoire est couvert de façon confortable, vous êtes d'accord?
En fait, ce qui est important, c'est pas les chiffres, c'est les Français. Aujourd'hui, les gens, ils en peuvent plus. Si vous n'êtes pas dans une ville dense, vous n'avez pas les 4 bars en permanence, vous n'avez pas une 4G de qualité, vous n'avez pas de la donnée de qualité. Si vous partez en vacances, si vous travaillez, si vous allez d'un lieu ou à un autre, vous voyez bien, quand vous n'êtes pas en dehors de ces métropoles, que ça ne fonctionne pas.
Objectif 100% de couverture en 2020, a dit le président. De qualité, mais que peut faire l'État? Parce que ça dépend essentiellement des opérateurs, en fait.
Oui, mais l'État, il est aussi là parce qu'il représente les Français. Donc on peut dire aux opérateurs l'exigence des Français. Et l'exigence des Français, c'est d'avoir un réseau mobile de qualité. Et puis après, on a différents outils de discussion. Alors vous savez que c'est un marché libre et régulé par un régulateur indépendant. Mais l'État, il peut faire plusieurs choses. Il peut donner les conditions dans lesquelles il attribuera les fréquences dans quelques années. Il peut dire ce qu'attendent les Français dans le cadre de ces attributions. Quand on reçoit le droit d'exploiter la voirie, d'exploiter un lieu, d'exploiter les ondes, il y a des obligations qui viennent avec. Et ces obligations, dans les précédentes attributions, elles n'étaient pas au niveau des usages d'aujourd'hui. les opérateurs, ils vont vous répondre, nous, on respecte toutes les obligations qu'on nous avait demandé de respecter. Ben, ils ont raison. Parce qu'à l'époque, on s'était pas dit que 100% des Français, ils allaient utiliser leur mobile pour aller sur Internet tous les jours. Et ben, aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, il faut que ce soit maintenant une réalité.
Mmh. Pour Internet, encore beaucoup de zones grises ou blanches ?
Encore des zones grises, blanches, des zones où il n'y a pas le très haut débit. Donc, c'est pour ça qu'on a un deuxième objectif. Couverture mobile d'un côté, mais aussi couverture en bon haut débit dès 2020 et le très haut débit dès 2022. Vous savez, s'il n'y a pas les réseaux, on ne peut pas faire tout ce qu'on a dit. On ne pourra pas faire des startups, on ne pourra pas aider nos TPE-PME à se transformer.
On ne pourra pas faire les services publics. C'est un enjeu de justice sociale et territoriale considérable. On l'a évoqué. On ne peut pas lutter contre la désertification dans les zones rurales quand on ne peut ni téléphoner correctement, ni travailler avec l'Internet.
Complètement, ça fait partie de ce volet d'inclusion. Ça sert à rien que je raconte partout qu'on va faire 100% de démarches publiques numériques en 2022 si tout le monde n'a pas accès à Internet. Mais vous savez qu'il y a une deuxième discrimination numérique qui n'est pas celle des réseaux, qui est celle des usages. On a 13 millions de Français aujourd'hui, presque 20% des Français qui ne savent pas ou pas bien utiliser Internet.
Personnes âgées, personnes handicapées.
L'âge. Le handicap, la non-maîtrise de la langue, mais aussi, vous savez, si vous avez été employé toute votre vie, qu'il n'y avait pas d'internet au bureau, que vous n'avez pas eu d'enfants à la maison les 20 dernières années, ben il se peut qu'à aucun moment vous ayez été formé à utiliser internet. Et ça, ce sont les mêmes personnes, quand elles vont à la caisse d'allocation familiale ou quand elles vont dans un autre service public et qu'on leur dit « prenez rendez-vous en ligne, c'est bon », c'est le début du cauchemar. Donc pour ces 13 millions de Français-là, il faut aussi qu'on ait une politique publique.
Il y a un frein, c'est la sécurité. Par exemple, il y a beaucoup de personnes âgées qui ont peur de se faire voler tout simplement leurs données. Comment se protéger ?
Il y a un premier enjeu, c'est comprendre et connaître. C'est pour ça que sur ces 13 millions et sur ces personnes qui ont peur, il faut former, il faut donner les yeux. Et la deuxièmement, c'est protéger. C'est pour ça qu'on a une vraie politique de cybersécurité et c'est le mois de la cybersécurité. Et
c'est aussi le lancement du plan Action Publique 2022. C'est la numérisation que vous lancez ce soir avec le Premier ministre et Gérald Darmanin, de tous les services administratifs, par exemple. Qu'est-ce qui va changer et à quelle échéance ?
Alors, ce n'est pas la numérisation de tous les services. Action publique 2022, c'est encore plus grand. Action publique 2022, c'est poser la question du pourquoi. C'est-à-dire se poser à chaque fois la question dans les services publics qu'on rend aux Français. Pourquoi est-ce qu'on le rend ? Et de quelle manière on le rend ? Et comment on pourrait le rendre encore plus humain, encore plus performant et plus utile pour les personnes ? Et un des moyens d'y arriver, c'est le numérique. Pensez à la justice, par exemple. La justice, aujourd'hui, c'est majoritairement une procédure papier lourde où les Français attendent beaucoup trop. Grâce à la numérisation, et c'est le troisième pilier qu'a annoncé Mme Belloubet, on va pouvoir saisir en ligne, continuer sa procédure en ligne et aller du début jusqu'à la fin, savoir quand seront nos prochaines dates, échanger les pièces entre les avocats, avoir une véritable procédure qui facilite la vie des Français. Ce sera le cas aussi dans les procédures plus quotidiennes sur le renouvellement des papiers.
Imaginez... C'est pas un peu survendu. On a l'impression parfois que le politique se défausse sur la technique. Comme si, effectivement, la numérisation de tout, il n'y aura plus d'embouteillage judiciaire, ce sera la fin des difficultés budgétaires. Il n'y a pas un côté un peu, vous voyez, remède miracle.
Vous êtes un peu dur. Je viens de vous dire qu'on posait la question du pourquoi. Et justement, vous avez raison, le numérique, s'il n'y a pas de valeur, ça ne sert à rien. Le numérique qu'on porte, c'est un numérique à la française, un numérique à l'européenne, avec nos valeurs. Performance, inclusion. On est là pour les deux.
Il y a beaucoup de créations de start-up en France. Vous lancez ce matin, maintenant, la revue des start-up, vous traduisez ?
Revue des start-up, c'est se dire comment on fait pour que nos start-up aujourd'hui en France, elles restent en France, elles grandissent en France, elles créent plein de nouveaux services en France, et comment on fait pour identifier ce qui les freine aujourd'hui ?
Pour éviter qu'elles se fassent racheter un moment de croissance ?
Ou en tout cas que jamais elles puissent dire c'est à cause de la France qu'on n'a pas pu grandir, ou on ne pouvait pas faire ça en France.
Et alors, c'est quoi la revue ?
La revue, j'en ai déjà fait deux épisodes, c'est-à-dire je suis allé à Rennes, je suis allé à Lille. Le but, c'est de rencontrer des entrepreneurs et de leur demander, chacun dans leur sous-secteur, qu'est-ce qui vous bloque ? Est-ce qu'il y a un règlement qui vous bloque ? Est-ce qu'il y a une loi qui vous bloque ? Est-ce qu'il y a un processus administratif qui vous bloque ? Et après, une fois qu'on aura récolté toutes ces informations, on se posera la question des chantiers prioritaires de simplification pour les start-up.
Et avec des solutions ? Quand ?
Avec des solutions dès le premier semestre 2018.
Sur la base de cette revue que vous démarrez maintenant et qui est une forme de consultation géante de toutes les start-up en France. Est-ce qu'on peut mesurer le montant du manque à gagner fiscal de l'optimisation à outrance des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc. depuis qu'elles font des bénéfices en France ?
On ne peut pas la mesurer, mais on sait qu'elle est très importante et qu'elle est insoutenable mais c'est pas illégal, c'est juste insoutenable pour les Français.
C'est scandaleux. Quand Google, par exemple, échappe à un redressement de plus d'un milliard d'euros d'impôts non payés en France grâce à sa convention fiscale avec sa filiale irlandaise,
comment vous voulez que je passe mon temps à aller à travers la France pour aider les PME à se numériser qui payent 33% d'impôts et leur dire que Google ne les paye pas? Aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur cette imposition. Vous avez vu qu'avec Bruno Le Maire, on a mené une initiative européenne. On a réussi à réunir une majorité de pays avec nous. On ira jusqu'au bout. Mais vous savez, ces plateformes, enfin, les Français les aiment et les utilisent.
Ni l'Europe n'a encore trouvé la solution pour contraindre ces entreprises à payer.
Non, mais c'est la première fois qu'on est 20 à y croire. Donc, c'est le début d'une solution. Et puis surtout, ces plateformes, les Français, ils aiment les utiliser. Donc, ce sera à eux de dire, moi j'aime votre produit, mais si vous ne payez pas plus d'impôts, si vous ne participez pas plus à la communauté, bah, peut-être que je vais vous aimer moins, et peut-être que je vais moins vous utiliser. Et ça, ces plateformes, elles vont devoir l'entendre. Parce que leurs clients, leurs consommateurs, ce sont aussi des citoyens.
Elles ne vont pas finir par diriger nos vies? C'est une question un peu futuriste, mais...
En tout cas, je ferai toujours tout pour que ces plateformes ne soient pas partout dans nos vies, mais que ce soit les citoyens qui décident ce qu'elles font avec ces plateformes.
Merci beaucoup, Mounir Mahjoubi, qui est arrivé essoufflé, mais qui nous a donné beaucoup d'informations sur la numérisation en France. Merci à vous d'avoir été dans ce studio.
13 millions de Français ne savent pas utiliser Internet. Ces Français doivent être protégés et aidés, vient de nous dire le secrétaire d'État chargé du numérique. Et c'est ce que nous allons mettre en place à l'horizon 2022. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.